Paul Flatt, Madame Henri de Régnier. Combien diverses les destinées d'écrivains, aussi diverses que les physionomies humaines dont aucune ne reproduit exactement la voisine. J'ai connu pourtant deux frères jumeaux qui se ressemblaient à tel point que leurs parents eux-mêmes n'arrivaient pas à les distinguer. Et quand ils furent mariés l'un et l'autre, pour que leur femme ne s'y pût tromper, ce qui aurait eu plus de conséquences, chacun portait une cravate de couleur déterminée. Vainement je chercherait-on dans l'ordre intellectuel des similitudes aussi marquées. Les catégories sont mieux délimitées. Chez certains écrivains, le don d'écrire est un fait naturel, spontané, s'épanouissant ainsi qu'une fleur sur sa tige. Chez d'autres, il apparaît comme un phénomène plus complexe qui se rattache à l'instinct d'imitation sommeillant chez tout être, en vertu duquel chacun de nous tend à répéter les gestes qu'il voit accomplir autour de lui. Madame Henri de Régnier, Gérard Dourville, fait partie d'une puissante association merveilleusement agencée pour le succès de ses adhérents. La plus active, la plus énergique qui fut jamais, et, détail unique, je crois, dans la vie littéraire, se restreignant tout aux membres d'une même famille. Qui donc prétend que se relâchent les siens, les liens d'autrefois? L'esprit de famille sur lequel s'attendrissaient nos mères, qu'elles proposaient à notre culte, avec raison d'ailleurs, comme la première garantie d'ordre social, est demeuré intact, mieux qu'intact, actif, vigilant, entre les membres de cette collectivité sans précédent. Qu'êtes-vous devenu, antique conception de l'homme de l'être, sur laquelle précisément vivaient nos mères, et qui leur faisait si peur, synonyme de relâchement, de dissipation, de bohémianisme, pour laquelle on eût pu créer le mot de murgérisme? Quelques années après les dates héroïques du romantisme, ayant une fois pour toutes dépouillé le gilet rouge d'Hernani, et quand il n'était plus qu'un fournisseur désenchanté de feuilletons dramatiques, Théophile Gautier observe, en sa préface aux Fleurs du Mal, qu'une seule fois dans l'histoire, on a vu un père et une mère d'accord pour préparer leur fils à la vie littéraire. Et ce fils était Chapelain, puis le futur auteur de La Pucelle, cinglante ironie du sort qui n'en fait jamais d'autre. Mais la date des Fleurs du Mal est déjà loin de nous. Nous nous formons aujourd'hui et transmettons à nos enfants une toute autre idée de la vie littéraire. Car en vérité, je ne distingue ici qu'ordre et méthode, entente tacite pour organiser des carrières, et je ne sais quoi d'un peu administratif, par où l'on prépare les beaux avancements dans la magistrature. N'est-ce pas un signe des temps que les artistes aient pris leur compte quelques-uns des préjugés qu'ils ridiculisaient chez nos pères? À une heure où tous les bourgeois se piquent d'être artistes, il est naturel que les artistes fassent échange de politesse avec eux. On ne saurait pousser plus avant que dans cette famille littéraire l'esprit de solidarité. Mais comment, en tout cas, demeurer indifférent à la précision des causes qui préparent la formation d'un talent? Examinons de près la vigueur du groupe familial dont il est issu. Dans un temps où chacun vit pour soi et n'attend des voisins que Orion et Croz en jambes, à une époque où la moralité dominante est celle du coup de poing, Madame Henri de Régnier connut le bienfait de plus solides appuis. Il n'est que d'avoir éprouvé les difficultés des débuts dans la vie littéraire, l'énergie farouche dont les aînés s'entendent à bloquer toutes les avenues, pour comprendre le bénéfice irremplaçable de voir sur un simple signe les barrières s'ouvrir devant vous. Élevé sur les genoux d'un père qui poursuivit ses rimes à travers les mille occupations de la vie mondaine, n'hésitant pas à parfaire 6 mois durant la magnificence d'un sonnet, elle eut ses jeunes ans bercés au son de la musique de phrases, et cette musique-là, tout comme l'autre, dépose en notre oreille des rythmes qui ne s'effacent jamais. On se rappelle les confluences de Madame de Commanville, la nièce de Gustave Flaubert, lequel contribua à sa première éducation. On ne peut soutenir que cette fille adoptive d'un illustre écrivain posséda le moindre don d'expression verbale. Mais d'avoir pris ses états d'enfant sur la peau d'ours blanc que foulait son oncle en scandant d'une vigoureuse intonation les accents de Madame Bovary, il subsista dans sa mémoire les rythmes qu'elle n'oublia pas. Si toutefois elle fut inhabile à les faire passer dans ses phrases. Que sera-ce chez une jeune femme qui possède un véritable don? À moins d'être un obstiné solitaire, chacun de nous tente à se rapprocher du groupe qui favorisera ses efforts. Chez certains, quelle énergie pour se soustraire au milieu qui les opprime! Quelle lutte pour sortir d'une atmosphère irrespirable à leurs poumons! Ce sont là circonstances dont on ne tient pas assez compte quand on juge dans son ensemble la carrière d'un écrivain. Pour Madame Henri de Régnier, rien de semblable. Nul besoin d'adaptation puisque celle-ci existait au préalable et qu'elle n'aurait même pas eu licence de s'y soustraire. Voilà une miraculeuse rencontre, telle qu'on n'en observerait pas une seconde dans la vie littéraire. Fille de poète, femme de poète, sœur par alliance de romancier, comment eût-elle pu faire proche de tant d'écritoires pour n'avoir pas quelques taches d'encre au doigt? Le risque, le seul risque à courir, c'était qu'elle connut la satiété que pour avoir vu telle consommation de littérature autour d'elle, elle l'a pris en dégoût. On pourrait citer quelques exemples de ce désaveu où ce n'est pas le père qui renie son enfant, mais ce dernier qui entend rompre tout lien avec celui dont il reçut la vie. Au risque infime, faut-il le dire. Chez Madame Henri de Régnier, ce fut l'instinct d'imitation qui l'emporta. L'instinct d'imitation, c'est bientôt dit. Car enfin, il faudrait s'entendre, sous peine d'être inique. Entre toutes nos femmes littéraires, c'est une des plus personnelles, celle qui peut être tirée le plus d'elle-même, de la subtilité de ses sensations, et le moins fait songer à ses auteurs. Détail notable chez une personne qui, à la lettre, coule ses jours parmi les auteurs. N'ayant pas à subir le seul rythme officiel et consacré des morts, mais les cadences autrement dangereuses des vivants. Parmi ces titres, c'est à mon sens celui qui compte le plus. J'y vois la décisive épreuve, la ceinture de flammes qu'elle doit traverser et dont elle sortit vivante. Trop de littérature, trop de musique autour d'une enfance, autour d'une amie, d'une âme qui s'éveille à la vie, cela peut être plus redoutable qu'aucune littérature, aucune musique du tout. Il subsiste encore la chance que cette âme porte en soi sa littérature et sa musique, auquel cas rien au monde ne saurait les empêcher d'en sortir, tandis que les réminiscences d'une mémoire trop fidèle risquent d'anéantir toute spontanéité. Je ne voudrais pas abuser des comparaisons qui toujours font suspecter notre partialité. Mais celle-ci vraiment s'impose trop pour que j'y résiste. Dès qu'on lit une phrase de Madame de Noailles, je parle de son œuvre romanesque, non de ses vers, on discerne les maîtres qu'elle évoque, auxquels elle tend la main pour réconforter sa faiblesse. Il semble qu'elle soit obligée de prendre à témoin quelqu'un de ceux qui contribuèrent à la formation de son esprit. Je ne prétends pas que toujours elle souligne ses références. Mais c'est à nous qu'il appartient de le retrouver. On connaît cette image de François de Sales, charmante, tout embaumée de senteurs empruntées à la nature, par laquelle le gracieux saint conseille à ses ouailles de faire comme les petits enfants qui, de l'une des mains, se tiennent leur père et de l'autre cueillent des fraises ou des mûres le long des voies. Excellente méthode de discipline chrétienne. Qui donc y contredirait? Mais moins bonne attitude pour la production littéraire, c'est quelque peu l'image de Madame de Noailles. Vraiment, elle pense à travers ses auteurs, car la sensation initiale elle-même, matière originale de toute pensée, elle la transforme et la transpose en la vivant dans l'accent grâce auquel s'évoque le souvenir de celui qui tout d'abord le donna. Chose curieuse, on conviendra que précisément la plante de serre chaude est produite à la lumière du jour les fruits les plus savoureux. Il n'est pas habituel que les plantes de terre chaude produisent le moindre fruit. Mais lorsqu'elles en donnent, il ne ressemble à nul autre. Qu'on y prenne garde, cependant, et qu'on ne soit pas dupe des apparences, des traits essentiels que nous ne saurions retrouver dans l'empreinte des influences extérieures, s'expliqueront suffisamment par la plus immédiate hérédité. Le père de Madame Henri de Régnier, le parfait artisan de rime, José Maria de Heredia, était cubain. Et bien que frappé avant la vieillesse, il vécut assez pour voir s'épanouir chez une enfant de son sang des dons littéraires qui venaient confirmer le sens du dicton « Bon sang ne saurait mentir ». Croit-on qu'on peut de sa circonstance, que l'on peut qualifier à son gré heureuse ou malheureuse, mais qui n'est qu'un des éléments d'une destinée, l'auteur d'esclaves eût pu imposer ce problème de la servitude amoureuse? Je voudrais évoquer ici un souvenir de ma première jeunesse, dont la principale image se rattache d'invincible façon à l'héroïne de Madame Henri de Régnier. C'était à Venise, un après-midi de printemps. Je revenais de Padoue. J'avais pris le bateau à vapeur qui fait le service du Grand Canal, et comme la pluie faisait rage sur le pont, j'étais descendu à l'étage inférieur. Tout à coup, mes yeux tombèrent sur une figure de femme qui força mon attention pour l'absorber dans une de ces contemplations qui vous arrachent à la vie extérieure. La grande beauté seule exerce ce magnifique pouvoir de beaucoup couper tout lien en communication avec la terre, parce que soudain, et pour une minute trop brève, elle isole l'être des vulgarités qui l'oppriment et brusquement décline et déchire le voile qui lui cachait un pan du ciel. Nul visage créole plus ardent et plus doux à la fois. Des yeux qui composaient tout l'air de ce visage, qui l'emplissaient, le dévoraient, tout, et pourtant s'arrêtaient sur vous comme une caresse. Un corps de rythme et d'harmonie, où chaque organe contribuait à la perfection de l'ensemble, et donnait ainsi l'impression, prise à part, d'une chose parfaite. Comment l'imagination est-elle pas recomposée un poème d'amour sur ce thème initial? C'est la secousse indispensable qui ébranle en nous les cordes sensibles et suscite la vibration par où tout l'organisme est exalté. Quelle n'est pas sa puissance sur l'artiste, pour qu'il devienne le secret, le mystérieux secret de son inspiration. Je ne doute pas que nous pouvons douter que Madame Henri de Régnier l'ait vu aussi, dans sa réalité tangible, celle qui allait devenir l'esclave de son inspiration. Fugace beauté qui disparut de mes yeux pour toujours au ponton de la Cadoro, elle devait y laisser une ineffaçable image, puisqu'après tant d'années écoulées, celle-ci reconquit sa vitalité quand je pris contact avec la grâce mirbelle de Madame Henri de Régnier. Il me devenait impossible de me représenter l'héroïne d'esclave sous d'autres traits que ceux de mon apparition vénitienne. Par bonheur, aucun des traits physiques que lui prête le romancier ne venait contrarier ceux qui ressuscitaient ma mémoire. Mais je crois bien que, si par aventure une telle contradiction se fût produite, j'aurais été contraint de substituer mes souvenirs personnels à l'image que l'auteur me venait proposer. Et c'est un étrange appui pour un personnage imaginaire d'éveiller en nous des analogies avec quelque épisode de notre vie émotive, comme pour l'auteur qui le créa de le pouvoir rattacher à son expérience personnelle. Si la qualité d'un ouvrage de l'esprit se mesure à la persistance des images qu'il imprime dans notre cerveau, esclave de Madame Henri de Régnier est assuré d'un rang qui ne saurait être médiocre. Grâce Mirbel n'est pas seulement une statue vivante de qui les souples conteurs tours viennent se réfléchir en nos yeux pour laisser une trace durable. Elle est encore une chair vivante, pulpe saturée d'arômes, pareille à un beau fruit de ces régions fortunées dont la senteur monte au cerveau. On se rappelle la fabulation du livre qui vaut avant tout par sa condensation et sa brièveté, dont l'ordonnance est bien dans la pure tradition française, parce qu'il démine soigneusement les circonstances accessoires, inhabiles à renforcer l'intérêt, et qui, suivant l'esthétique d'une mise en scène bien composée, nulle figure ne s'avance au-delà du plan qui tout d'abord lui a fait indiquer. Il faut aimer ces ouvrages qui, par la sagesse de leur ordonnance, par l'harmonie de leurs proportions, se rattachent à ce qu'il y a de plus pur dans la tradition de notre génie. Il faut les aimer non seulement parce qu'ils vivifient en nous la notion de beauté, mais d'une certaine beauté qui n'est qu'à nous, et par laquelle nous avons exercé sur les esprits ce long prestige que seul peut affaiblir le flot des importations de l'étranger et ce cosmopolitisme malsain venant composer de toutes les esthétiques un étrange amalgame. On se défend comme l'on peut, et la meilleure façon de se défendre, c'est encore d'obéir aux suggestions de son tempérament. D'avoir retrouvé dans ce bref récit esclave, si ramassé dans sa forme, toutes les vertus de notre génie français, ce fut pour nous la plus vive satisfaction. Pareillement, à distance, avant même de mettre un nom sur un visage, on distingue la silhouette et l'accent national qu'il révèle. J'en sais qu'ils viendront le taxer de sécheresse. Laissons dire. Il n'est rien comme les esprits brouillons pour mettre sur le compte de l'impuissance ce qui n'est qu'ordre et méthode dans l'art de composer. Comment saurait-il discerner ce qu'il entre d'art dans une telle sobriété de détails quand chez eux tout est prétexte à sortir du sujet, à faire craquer le cadre du tableau? Madame Henri de Régnier se rattache, par les liens que nul ne pourrait lui contester, à la pure tradition classique. C'est avant tout ce que nous goûtons dans ce roman « Esclave ». un minimum de personnages. Grace Mirbel, qui subit une première fois le despotisme amoureux, puis, s'étant reprise, lutte à nouveau contre le maître de son cœur et de ses sens. Antoine Ferlier, qui marche avec la certitude d'une nouvelle victoire vers la conquête de celle qu'une fois déjà il a fui, lui. Et Charles, le doux et tendre Charlie, qui livre tout son âme et se trouve broyé entre les deux. Les figures d'arrière-plan ne valent que comme taches souches complémentaires qui viennent préciser et vivifier le décor d'un drame tout intérieur. Grace Mirbel est la trouvaille de Madame Henri de Régnier. Et si c'est une trouvaille littéraire, par l'art dont furent assemblés les traits qui composent sa physionomie, déjà nous avons admis que leurs éléments essentiels ne doivent être recherchés plus haut, dans une inconsciente hérédité. Par un mécanisme assez identique à celui qui confrontait notre rencontre vénitienne au trait de la figure venant s'ordonner sous la plume de notre auteur, les images cubaines emmagasinées dans le cerveau du scrupuleux artisan José María de Heredia, que celui-ci n'utilisa que pour renforcer la puissance de ses rimes, ressuscitèrent chez sa fille en valeur d'émotion, d'où Grace Mirbel tire sa vivante poésie. Vous sentez le mécanisme et avec quelle rigueur il précise les lois de la composition. À part les francs, si nous poussons l'analyse jusqu'à ses conséquences extrêmes, nous ne produisons à la lumière du jour que ce qui en est en nous, à tel point que les mêmes séries d'images enregistrées en des cerveaux si proches par le sang que ceux d'un père et d'une fille, puis renforcées encore par l'hérédité, peuvent donner naissance à deux formes d'art aussi différentes que celles de ce père et de cette fille. D'une part, la poésie, la plus voulue, la plus purement extérieure, la plus froide qui fut jamais, et de l'autre, une prose colorée sans doute, riche d'images empruntées à la vie objective, mais qui sans trêve évoque les mouvements passionnés de l'âme et nous les rend présents par l'ardeur dont elle la décrit. Un seul point leur est commun, le souci de la forme, qui donne la durée aux œuvres de l'esprit, par où tous deux relèvent d'une même école et sont disciples du même maître. Et si ce n'était froisser les justes sentiments d'une fille pour un père auquel elle doit tant, je n'hésiterais pas à indiquer une préférence sur laquelle je me reprocherais d'insister davantage. Il est de justes louanges qui peuvent blesser, fussent-elles marquées au coin de la plus évidente sincérité. Pourquoi d'ailleurs insinuer des comparaisons et des rangs? J'ai dit que Grace Mirbel m'apparaissait la trouvaille de Madame Henri de Régnier. Trouvaille, c'est-à-dire chose unique, qui vous appartient en propre, dont on cherche en vain l'équivalent dans le passé. Et pourtant, elle a de fermes assises dans la réalité observée. On connaît cette fin d'un petit poème en prose. Il y a des femmes qui inspirent l'envie de les vaincre et de jouir d'elles. Mais celle-ci donne le désir de mourir lentement sous son regard. Beauté pliante et soumise, Grace Mirbel est de la race des premières. Des pieds à la tête, elle n'est que sensibilité amoureuse, subordonnée à la sensualité. Voilà ce que Madame Henri de Régnier nous illumine d'un vif éclat, ce qui donne sa pleine signification à cette figure féminine. La prédominance, l'absorption de la sensation, ne laissant subsister aucune place dans cette âme d'instinct. Pourquoi que ce soit d'autre qu'une existence d'amante, petit animal câlin, qui ne saura se soustraire au despotisme des caresses, Elle a connu celle d'Antoine Feltier, et c'est pour elle un joug dont rien ne saurait la libérer. Écoutez, avoue-t-elle à Charlie, pendant des années, j'ai été sa pauvre, sa misérable esclave, le jouet de tous ses caprices, la complice de toutes ses fantaisies, la victime de ses cruautés presque inconscientes. Il avait 100 maîtresses, me les montrait, me parlait des beautés de leur corps, les comparait aux miennes qu'il exhalait ou rabaissait selon son humeur. Il jouissait de mon pauvre visage convulsé quand je le voyais ébaucher quelque aventure, poursuivre quelque caprice ou s'acharner à une tentative amoureuse qui ne lui fût peut-être pas disparue si délectable si j'en avais été le témoin averti, impuissant et déchiré. Et je l'aimais comme je l'aimais. Ce n'est là qu'un trait entre tant d'autres qu'il nous faut négliger. Le plus expressif, parce qu'il s'agit de choisir, et que toujours on fait son choix dans le sens de la thèse que l'on veut démontrer. Mais on en trouverait dans 100 autres, et pas un seul parmi eux qui ne contribue à l'unité d'accent du personnage. La fabulation du roman nous marque un conflit, une lutte dans l'âme de Grace Mirbel. Lutte où nous avons trop que la malheureuse est vaincue d'avance. Je ne pense pas qu'on ait jamais mieux rendu par la seule magie des mots, l'abandon morbide, alangui, toujours prêt, de celle qui s'est en laissée marquer à cette profondeur de chair, par la griffe aiguë de la volupté, ne pourra plus que s'abandonner encore, renonçant à tout espoir de jamais se reprendre. Libre moraliste de faire telle réserve qu'il jugera bonne sur cet affaissement, sur ce perpétuel abandon de soi-même qui rend possible une création comme celle-ci. Il est clair que, si la société comptait un grand nombre de Grersmichter, les rapports sexuels réglés en vue du mariage et qui sont déjà si difficiles deviendraient tout à fait impossibles. Encore une fois, cette affaire au moraliste, et nous la retenons pour ses conclusions. Quelle constitue une réalité dans la vie qui nous entoure en nous proposant ces spectacles, c'est assez pour justifier chez les artistes le désir de peindre. Qui de nous ne pourrait retrouver dans ce magnifique répertoire de souvenirs que crée une expérience personnelle subordonnée à l'observation quelques figures s'apparentant à l'héroïne de Madame Henri de Régnier? Il sera d'ailleurs d'autant plus vaste ce point de vue de moraliste qu'il embrassera plus d'objets. Comme s'étend la perspective du voyageur à mesure qu'il s'élève davantage, la portée d'une observation croît à proportion des documents qu'elle assembla. La nature même de cette amoureuse appelait par contraste, si j'ose dire, par nécessité de logique intérieure, un amant déterminé. Il y a ainsi des voies littéraires qui s'appellent et se répondent l'une à l'autre, comme un écho dans la forêt. Et en face de Grersmichter, Madame Henri de Régnier ne pouvait que nous restituer la figure illustre du dominateur, de l'homme à femme, du maître de l'esclave amoureuse, esclave lui-même de ses instincts et rivé à ses appétits. Thème éternel et tant de fois repris, depuis Don Juan jusqu'à Prix Rollard, le plus original des créateurs, ne serait qu'ajouter quelques variations à la donnée première. Et d'ailleurs, sa ligne conductrice s'impose avec une telle rigueur que celle-ci ne pourrait s'en écarter. Antoine Ferrien ne pouvait se soustraire aux exigences de son type littéraire, quand ses yeux, traduisant son désir, disent à grâce après 3 années d'abandon, « Eh bien oui, je vous ai trompé, je vous ai trahi, je vous ai humilié, je vous ai détesté, je vous ai quitté, je vous ai oublié, autant qu'un être humain peut oublier un autre être. À présent, je ne désire plus que vous. Je veux vous faire souffrir encore. En ce moment, moi-même, je souffre d'une profonde jalousie. Je suis votre maître, car vous ne chérirez plus personne comme vous m'avez chéri. Et je veux que vous m'aimiez toujours. Moi, qui depuis de longues années, t'as pas eu pour votre détresse lointaine, le plus petit regret, pitoyable ou attendri. Ah, cet accès, vous pouvez reconnaître la série des générateurs immédiats, ceux à l'influence de qui la faculté inventive de l'auteur n'avait pas licence d'échapper, puisque ses voix aiguës, d'âge en âge, se répondent avec une vibration qui prolonge en nous leur écho. Juan de Marana, Valmont, Richelieu, Ephréna, Poyola, et nous entendons encore les intonations du dernier en date, le marquis, distribuant des conseils à son fils. Quel conseil ! Et à qui donner ? C'est la morale du cruélisme dans l'amour à laquelle il faut tout ramener. Car si les instincts nobles ou conservateurs de l'ordre national spontanément s'érigent en loi pour constituer un corps de doctrine, il en ira merveilleusement pareillement des destructeurs qui s'opposent au premier de toute l'énergie des révoltés. Pas plus que Valmont, pas plus que Priola, Antoine Ferrier, n'oublie ce trait de leur commun ancêtre Juan, qui a de thésauriser, le formuler des vues d'ensemble sur la vie, et comme pour eux, la vie se réduit tout à l'amour, sur la conquête de la femme. Pourtant, avant de vous dire, on ne peut attacher quelques variations nouvelles. Et je crois que notre auteur, en découvrant une qui pourrait faire envie à M. D'Annunzio lui-même, c'est quand, durant une soirée masquée, Antoine déclare sa passion à celle qu'il croit être une amie de grâce, vêtue des mêmes dominos et des mêmes capuchons rabattus sur les loups à longue dentelle. « Antoine m'avait reconnu !» s'écrie la jeune femme. « Il parlait malgré moi, sa bouche sur ma bouche. Il murmurait « Eh bien oui, je t'ai prise pour une autre. C'est bien à elle que s'adressait mon désir, qu'allaient mes paroles et mes baisers. Mais elle n'aurait pu être si brûlant. Il n'aurait pas été si profond si je n'avais pas pressenti toi sous ce velours obscur, comme on devine la lune argentée sous le nuage qui passe. » Voilà l'élément intellectuel qui vient s'ajouter au sensible en manière de raffinement et pour pousser jusqu'au dernier degré de l'aigu les pointes extrêmes de la volupté. Par-delà cet épisode, on ne saurait rien imaginer qui demeura du domaine littéraire. C'est peu que posséder l'objet convoité et d'un regard scrutateur observer les frémissements de ses nerfs. Car répétition engendre monotonie, et suivant une loi trop souvent vérifiée, la possession éteint la passion. À ce risque d'affaissement qui menace son amour, Antoine Ferrer viendra donc opposer le rehaut des complications sensuelles et la plus active de toutes, celle des larmes qui emplissent de beaux yeux, larmes versées pour son amour. Ici, pas une intervention de la loi naturelle. L'amant ne poursuit plus le bonheur, mais la torture de son objet, et les sanglots viennent d'aviver le frémissement de la machine nerveuse. C'est encore un témoignage nouveau, ajouté à tant d'autres, de sa mainmise sur elle. Il serait logique qu'un tel enchaînement d'état morbide. Toi, sa conclusion dans la plus farouche des haines. Et nul doute qu'avant peu, grâce Mirbel n'arrive à détester celui qu'elle enveloppe de son mépris. Mais l'auteur n'a pas voulu pousser jusqu'à cette suprême étape le développement de ses personnages, et leur histoire s'achève sur une étreinte plus passionnée encore que les précédentes. Domination, servitude amoureuse, esclavage des sens. C'est donc ce que débrie d'un bout à l'autre de ses pages le roman de Madame Henri de Régnier. Affaissement de l'être moral, prédominance de l'instinct, pourrait-on ajouter, car la servitude amoureuse à ce degré ne se différencie guère du pur instinct animal que par les nuances d'expression qui rajoutent le compteur. Somme toute, c'est la même idée, mais traduite par des moyens différents que chez Madame de Noailles. Antoine Ferlier est tout aussi esclave de la sensation qu'Antoine Arnauld également, ligoté par l'impulsion, non moins victime de l'instinctivité. Les circonstances sont différentes, le décor est autre, surtout l'accent. Mais la psychologie foncière est identique. Grâce Mirbel, qui pourtant lutte, mais d'avance est vaincu, nous apparaît à la merci de ses instincts, tout autant que Donna Marie ou l'institutrice Émilie. Aux prises avec l'amour, les uns comme les autres n'ont guère que des réflexes, de soudaines détentes, et certes nous n'ignorons pas que la plupart des hommes sont ainsi. Mais le piquant, c'est de voir une jeune plume féminine noter avec ce cruélisme désabusé l'impulsivité virile. De tout autre, sans doute, n'en aurions-nous aucune surprise. Et j'en sais qu'ils soupçonneront quelque attitude à cet obstiné parti pris. Il est si tentant de donner une image de soi-même différente de celle qu'on attendait. La seule excuse de Madame Henri de Régnier est d'avoir étendu à ses héroïnes l'empreinte dont elle n'hésite pas à marquer son héros. Seule échappe à l'étreinte de la sensation excessive le soupirant Charlie, de qui le désir sans l'oubli de courage et de dévouement. Dévouement parce que si jeune, on s'oublie volontiers soi-même, et courage parce qu'il s'agit de prouver à l'adorer qu'au prix de son amour, nul risque ne saurait compter. Charlie, qui serait une figure unique, s'il ne descendait en ligne directe de trop illustres modèles. Charlie chérubin, filleul d'une belle marraine, et plus encore, Charlie Fortunio, cousin d'une si tendre cousine. Charlie, le cavalier servant, cet enfant inoccupé qui, entre l'éducation finie et une carrière à choisir, passait son temps à ramasser l'éventail de sa belle cousine ou à lui plier son châle à franges. Charlie, toujours présent et qui irrite les nerfs d'Antoine Clavaroche. Familières images, ressuscitant dans nos songes, avec les traits précis de ceux qui, le temps de notre adolescence, déposèrent en nous le charme de leur première empreinte. Ce sont illustres répondants, sous l'invocation desquels l'auteur d'Esclaves place son jeune héros, car il est impossible que Madame Henri de Régnier, qui d'autre part se rattache si évidemment à la tradition de notre génie français, n'est point voulu par là rendre hommage à deux mémoires et à deux noms qui en sont les représentants immortels. En présence de tels héros, si délicats et si sensibles, tout soupçon de violence ou de froissement brutal se trouve écarté de la notion d'amour, par où justement, dans les habituelles rencontres, elle paraît avilie. Et par tout dire, empreinte d'une grossièreté tant soit peu répulsive. Chez eux, la part d'instinct se trouve réduite au minimum. Transposée dans le domaine exclusif du sentiment, il aura tout fait de perdre cette brusque violence, cette impétuosité, ce despotisme qui d'ordinaire régissent les impulsions passionnelles. Chez eux, la part d'instinct se trouve réduite au minimum. Transposée dans le domaine exclusif du sentiment, il aura tout fait d'y perdre cette brusque violence, cette impétuosité, ce despotisme qui d'ordinaire régissent les impulsions passionnelles. Pourtant, la différence du méridien fait couler dans ses veines un sang plus impétueux. Et quand il traduit son désir, c'est dans des termes qui, des deux, tout au moins, m'ont fortuné. J'ai 19 ans et je voudrais vous protéger, me dévouer pour vous. Voilà bien Fortunio. Puis, oh, je voudrais que vous m'aimiez, que vous m'aimiez, pardonnez-moi de tout votre corps. Ah, cela c'est du Charlie tout pur. Car jamais tel aveu ne fut sorti de la bouche qui murmurait ses déclarations à Jacqueline. De quoi lui serviraient d'ailleurs le dévouement et la sincérité de cet amour? À l'issue du duel qui met face à face les deux adversaires, c'est pour Antoine seul que tremble Grace Mirbel, et c'est dans ses bras qu'elle s'effondre, décidément vaincue. Gardons-nous des apparences et défions-nous des catégories où, d'après leur forme, on enferme les œuvres de l'art. Au-dessous d'un titre comme « Cet esclave », l'éditeur qui fait appel au public et se préoccupe de meilleurs moyens en vue d'atteindre son objet, inscrit délibérément ce sous-titre « Roman ». Sait-il pas en effet que parmi les quelques centaines ou quelques milliers de lecteurs qui forment la clientèle d'un auteur d'imagination, la grande majorité vient chercher dans ses livres l'histoire qui la pourra divertir un instant. Donc, il importe de souligner le genre où se classe le livre qu'on lui vient proposer. Mais la critique, qui ne saurait tenir compte d'un tel point de vue, qui justement fut inventé pour donner aux œuvres de l'esprit leur véritable cote, non d'après leur succès, mais d'après leur valeur, se tient à un autre raisonnement en analysant le genre de plaisir que lui procure Esclave. Qu'y a-t-il de commun, songe-t-elle, entre cet esclave et la multitude des ouvrages qu'on nous présente, revêtus de la même estampille? Sans doute y voyons-nous, comme ailleurs, des personnages en rapport de conflit passionnel, car il faut bien, de toute rigueur, donner son affabulation à son développement littéraire. Mais tandis que chez la plupart, les faits extérieurs dominent et oppriment les faits psychologiques qui sont destinés à traduire, ici c'est une esthétique en tout point conforme à celle que formulait Renan dans une page de ses cahiers de jeunesse. Je ne sais pas pourquoi les faits et incidents extérieurs, les péripéties survenant sans être un pur développement psychologique, me choquent dans le roman et le drame. Je voudrais que ce fût le simple développement de la passion se peignant par des faits extérieurs. Déjà, cette sobriété qui déblaye tout accessoire et subordonne le dehors au dedans, c'est un des premiers mérites de notre génie latin auquel plus haut nous rendions hommage. C'est la conception classique de l'œuvre imaginative telle qu'elle en sortit de notre 17e siècle français, et rapprochement qui prend toute sa valeur quand il s'agit d'une femme, de la plume de Madame de Lafayette. Condensation des effets Sobriété de l'accent, vertu rare que nous admirons d'autant plus qu'elle porte ici la signature d'un sexe ayant tendance à se distinguer par les défauts contraires. C'est peu encore au prix de l'élégance du style, de la beauté formelle qui donnera à cet ouvrage un rang à part parmi les productions féminines de ce temps, et je détache en le soulignant avec intention, pour qu'on s'y arrête, ce portrait de Grace Mirbel à l'époque où Antoine la revoit et découvre en elle une beauté nouvelle, donc une femme nouvelle. Le nez fin, très peu brusqué, respirait la rose épanouie, et les cils noirs et courbes voilaient les longs yeux baissés. Il savait, sans les voir, comment ses yeux étaient beaux, vert sombre ou clair ou grisâtre, selon l'humeur de grâce ou le temps. Il contrastait si bien avec sa chevelure foncée, toujours abondante et ondée, qu'elle portait ce soir, tordue sur le cou en un lourd chignon. Il voyait inclinée la nuque fière dont la peau était plus ambrée que celle des joues. Jadis, il avait aimé mordre ce frémissant par une sorte de férocité amoureuse. Les formes du buste lui parurent plus pleines, mais encore d'une minceur élancée, et le bras qui sortait, nu et arrondi des dentelles courtes de la manche, était ce même bras si blanc, si lisse et si délicatement charnu qu'on désirait le respirer comme une fleur encore en bouton. Vous suivez les scrupules de l'exécution chez l'artiste. Dans un temps où la plupart des œuvres d'imagination dénotent la hâte avec laquelle elles furent écrites, où de plus en plus on méconnaît le principe fondamental de toute esthétique, que la forme seule peut imprimer la durée aux œuvres de l'esprit, c'est déjà un mérite singulier que d'en connaître la vertu. Mais lui rendre témoignage en un livre, où précisément l'exécution correspond au double principe de notre génie français, résumé dans ces deux mots, sobriété du détail, pureté de la forme, c'est assez pour qu'à ce premier sous-titre, roman, nous puissions substituer celui de poème en prose, qui plus exactement fait justice à son mérite.